À une époque où règne la confusion,
de l'intimité à la révolte, de l'enfance à la vieillesse, entre rire et larmes, la vie comme elle s'écrit. C'est dans Les Buissonnières, l'émission mensuelle de la Maison de l'écriture de Bédarieux. C'est l'été indien, en ce chaud mois d'octobre qui nous rappelle l'été véritable, celui qui s'ouvrait en juin et se terminait en septembre avec quelques froidures, il n'y a pas si longtemps, avant que les bouleversements du climat ne nous imposent de revoir notre vocabulaire. Verrons-nous disparaître le mot « été » au profit d'un autre, mieux adapté à notre réalité ? En tout cas, dans cette période de vacances où la Maison de l'écriture connaît son activité maximale, nous nous sommes penchés en juillet sur l'art difficile de la nouvelle. Nous vous en livrons aujourd'hui quelques pépites. C'est Valérie qui ouvre le bal avec une très étrange histoire qui se déroule, elle aussi, en été.
Le chant des cigales s'est tu à l'apogée d'un dernier crescendo. Et l'obscurité naissante emplit tout l'espace. Fromage ou dessert ? Les oreilles encore bourdonnantes du tempo des crécelles, ils n'ont pas su quoi répondre. Fromage ou dessert ? Réitère aimablement la serveuse. Pardon, souffle l'homme. Dessert. Pour toi aussi, chérie ? Le visage maintenant détendu, elle acquiesce d'un sourire calme. Joue délicatement du cliquetis des glaçons restés au fond du verre de Morito. Aspire les dernières gouttes de sucre que le rhum a cessé d'enflammer. Mâchouille lentement une feuille de menthe déchiquetée. Lui caresse du regard ses boucles brunes, encore humides du bain dans le lac glacé de Sainte-Croix. Saisit une des mèches brunes, qu'il étire le long de sa joue pour l'enrouler autour de l'index, le retire lentement pour dessiner une anglaise. Chacun sourit à l'autre de ce premier jour de vacances. Ils ont roulé toute la nuit, pour n'en perdre aucune seconde. Paris-Moustier, sans aucune halte, au rythme qui est le leur. Arrivé trop tôt, la chambre réservée n'était pas prête. L'auberge rose. Le cliché les a amusés. Alors, ils ont attendu. Préféré se doucher rapidement plutôt que de se laisser tenter par les draps propres parfumés de lavande. Ils ont arpenté les rues pavées de calcaire, avides de tout ce bleu, de tout ce blanc. Elle, se moquant de lui quand il a frotté de la pulpe du doigt une bonne vingtaine de coupelles en céramique avant de décider quelle serait la meilleure pour gratter les gousses d'ail. Lui, irradié de fierté lorsque sa silhouette de sirène a émergé de la cabine d'essayage. Taille 36. Elle n'a pas pris un gramme en 3 ans, sans même consacrer 1 heure de sa semaine d'executive woman à une séance de gym. Quand lui s'astreint à 45 minutes de footing quotidien. Elle secoue la tête, plaque ses mains sur les reins pour mieux se redresser, étire son cou. La balade en canoë l'a épuisée. Ou bien, est-ce la tension accumulée ces derniers mois ? Elle a dû négocier dur ses indemnités de départ, refuser l'une après l'autre les propositions de la direction pour la garder au sein de la société. Elle n'a pas cédé. Le jeu en valait la chandelle. Nouvelle carrière. Ce poste de directrice d'agence, qu'elle brigue depuis plus d'un an, elle l'a obtenu en 2 entretiens d'embauche chez Creava. Quand il lui aurait fallu attendre encore 2 ans chez Ardeo. Quel appétit, ma chérie, ça me fait plaisir de te voir manger comme ça. Prends des forces, tu en as besoin. Elle réalise que, rompant avec ses habitudes, elle vient de se resservir machinalement une cuillère de gratin dauphinois. Il a raison. Il a toujours raison. D'ailleurs, il est toujours là pour elle. les yeux brillants de reconnaissance, elle effleure son mollet de la pointe du pied. Quartier de pêche et cerise cuite dans leur jus, décoré d'une boule de crème glacée, le dessert est un véritable tableau dont ils hésitent à effacer le dessin en le dégustant. Plus tard, ils se souviendront de son assiette à elle, restée intacte, de l'addition réglée dans la précipitation, du taxi appelé en urgence pour rejoindre leur hôtel, du trajet interminable pour rejoindre l'hôpital de Digne. Maintenant, assis sur une chaise de plastique dur, il fait craquer ses doigts les uns après les autres, aussi pâles que les murs de la salle d'attente. Elle, les yeux fixés sur l'écran d'imagerie médicale, ne comprend ni ce qu'elle voit, ni les questions que lui pose le médecin. Lourdeur dans son corps et confusion dans sa tête. Elle aurait dû se contenter d'une seule part de gratin. Ne jamais se resservir. Sortir de table sans être rassasiée. Elle a entendu cette rengaine toute son enfance. Les horribles crampes ont repris. Et ce type l'exaspère avec ses questions stupides et ses grosses lunettes. À quand remontent vos dernières règles ? Une dizaine de jours. Et oui, elles sont régulières, je suis sous pilule. Qu'il se taise et qu'on lui donne quelque chose, un cachet, une piqûre, qu'on lui fasse un lavement, mais qu'on en finisse. Et son mari, où est-il ? Ses oreilles bourdonnent, elle ferme les yeux, sensation épaisse d'un tissu de feutre tapissant l'intérieur de son crâne. Elle s'enfonce dans un coma onirique où elle entend tour à tour le son strident du portique quand elle badge à l'entrée d'Ardeo, vite remplacée par le balancement d'un métronome posé sur un piano. Bientôt, c'est la pluie qui dégouline sur son front, un soir d'orage à la rivière. Et sans transition, elle et lui, couchés dans leur chambre, se tenant la main. Lui, il fait les 100 pas dans la salle d'attente, patientant une nouvelle fois avant qu'on le conduise auprès de sa femme. Il voudrait pleurer, il voudrait rire, sauter ou courir dans la rue, évacuer ce trop-plein d'émotions qui lui obstrue la gorge. Il y a 10 minutes encore, il se torturait en se demandant pourquoi l'attente était si longue, pourquoi personne ne venait le voir, lui dire comment allait sa femme. Il avait pensé empoisonnement, appendicite, n'avait pas osé envisager le pire. Maintenant, il a l'impression d'être emporté dans la marmite d'un torrent. Elle a été transportée dans une autre salle. Un bip plus insistant que les autres l'arrache à sa torpeur. Les yeux désormais ouverts, elle voit son compagnon assis tout près de son lit. Il lui tient la main. Elle s'étonne de sa pâleur, du regard perdu qu'il pose sur elle, du sourire fatigué qu'il lui adresse. Et ses lèvres qui remuent pour tenter de lui dire quelque chose, sans qu'aucun son pourtant ne sorte de sa bouche. On a posé une compresse humide sur son front et c'est une autre voix, une voix féminine celle-là, qui lui parle. La femme en blouse verte a baissé son masque chirurgical, dévoilant le grain de beauté qui ourle sa lèvre supérieure. « Madame, vous allez avoir un bébé. Le travail a commencé. » Il sera là bientôt. Ses yeux ne peuvent se détacher du grain de beauté. Elle sent la grande main d'homme serrer plus fort la sienne et c'est seulement à cet instant que son regard glisse plus bas et qu'elle remarque ses talons posés sur les étriers, ses jambes écartées à l'équerre et sous le fin duvet noir de sa peau, son ventre soudainement gonflé de mer. Six heures. La lumière du jour soulève ses paupières. La petite boule de chair est là, lovée dans son berceau de plexiglas. La tête de son mari, du papa, pense-t-elle, repose sur l'accoudoir du fauteuil. Cette nuit, on leur a demandé s'ils voulaient garder l'enfant. Aucune hésitation, ils en désiraient un. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi n'a-t-elle rien vu, rien senti ? Pourquoi son corps est-il resté muret jusqu'à cette nuit ? Est-elle malade ? On lui a promis un accompagnement psychologique. Le sel des larmes mouille ses lèvres sans qu'elle sache si elle pleure de joie ou de la honte d'avoir laissé le petit être se dissimuler pendant des mois, plaqué tout contre sa colonne vertébrale.
Et c'est au tour de Marie-France de nous raconter l'émouvante histoire d'Elisabeth et de Nicole.
Ils sont tous morts. Elle était là, toujours assise à la même place, près de la fenêtre, face à l'entrée, et mon regard était immanquablement attiré par elle. Enveloppée dans un grand châle vert, quelle que soit la saison, ses cheveux grisonnants, soigneusement rassemblés en chignon, toutes ratatinées comme une pomme oubliée dans un plat à fruits. Je l'observais se tasser chaque jour un peu plus. Je pensais, en la voyant, qu'un jour on ne la verrait plus, qu'elle disparaîtrait, avalée par sa chaise. D'ailleurs, j'avais le sentiment que j'étais la seule à la voir, et que pour les pensionnaires, comme pour les autres membres du personnel, elle avait déjà disparu. Parfois, un court instant, un sourire venait éclairer son visage fripé. Ses yeux semblaient retrouver leur éclat, les rides n'existaient plus, elle redevenait belle. Je l'imaginais même toute droite sur sa chaise, mais ce n'était qu'une illusion. Illusion aussi lorsque je prenais le temps de laisser mon esprit vagabonder dans ses souvenirs, entrer dans sa mémoire. Elle gambade dans les collines, fine et vive fillette, gardant ses brebis en rêvant de princesses et de princes charmants. Assise sur les bancs de l'école du village, elle trempe sa plume dans l'encrier, mâchonne son porte-plume en écoutant le maître. Dehors, il neige. Dans la classe, le ronronnement du vieux poêle ne parvient pas à les réchauffer. Elle sait que le soir, elle viendra se lever comme un chat, au pied du fauteuil que sa grand-mère ne quitte plus, installée à demeure dans l'âtre de la grande cheminée. Depuis quelques semaines, une autre pensionnaire a tiré mon regard. Plus grande, plus droite, plus jeune peut-être. Celle-ci était soigneusement maquillée, coiffée, manucurée, habillée comme si elle allait partir pour une soirée chez des amis ou un spectacle au théâtre. Son sac à main était toujours soigneusement posé près d'elle, précieux sésame, vestige de sa vie d'avant. Elle était arrivée depuis peu et avait proposé à la directrice de la maison de retraite des Acacias de faire des séances de lecture à haute voix pour les autres clients, ce que la directrice avait accepté sans hésiter, toujours à la recherche d'activités pour occuper tous ses pensionnaires. Chaque semaine, donc, pendant 2 ou 3 heures, elle lisait les romans à grand caractère apportés par les bénévoles de la médiathèque. Elle semblait ravie d'être les yeux de ces hommes et de ces femmes, ravie d'exister, d'être utile. J'étais en stage depuis quelques semaines et j'avais appris à prendre de la distance, suivant les conseils de la directrice. Surtout, vous ne vous attachez pas, vous comprenez ? J'avais vite compris ce qu'elle ne voulait pas dire. Celui, celle qui était là aujourd'hui, serait peut-être partie demain. Scrupuleusement, j'avais même évité de retenir les noms et prénoms des pensionnaires. Avec respect, je les appelais monsieur, madame, lorsque je m'adressais à eux. « Vous voulez un peu d'eau, monsieur ? Vous n'avez pas trop froid, madame. » Mais pour elle, j'avais fait une exception. Je savais que la vieille dame flétrie s'appelait Elisabeth et que la lectrice se prénommait Nicole. Un nom sur un visage, c'était déjà le début d'une histoire. J'assistais régulièrement aux séances de lecture. J'étais là pour répondre à toutes les sollicitations de l'auditoire de Nicole. Elle avait une élocution parfaite, savait placer sa voix qu'elle avait profonde et chaude. Je pensais qu'elle avait sans doute été actrice, ou bien qu'elle avait travaillé à la radio. D'ailleurs, de plus en plus de personnes prenaient place dans cette salle climatisée, aseptisée, aux murs fades, à la décoration sans âme. Ils venaient pour écouter Nicole. Certains s'endormaient dans leur fauteuil au son de sa voix, mais la plupart suivaient avec intérêt ses récits. Je me laissais également envoûter par cette voix, même s'il faut l'avouer, les romans choisis n'étaient pas toujours d'un grand intérêt. De temps en temps, Nicole faisait une pause. Alors, d'un geste sûr, altier, elle levait la main et claquait des doigts pour attirer mon attention, comme si elle était au bar d'un grand hôtel. « Vous me mettrez une limonade, s'il vous plaît ?» Inexorablement, je lui répondais « Je suis désolée, Madame Nicole, mais vous savez, On n'est pas à l'hôtel ici. Je vais vous chercher un verre d'eau. » Elle posait les yeux sur son livre et attendait que je lui apporte sa boisson avant de reprendre sa lecture. Pour Noël, la maison de retraite avait organisé une grande fête, invitant les familles des résidents à participer à ce moment joyeux. Elisabeth était seule. Autour d'elle, les familles étaient venues, parfois avec de jeunes enfants qui apportaient de la vie dans ces lieux qui en manquaient. Mais elle, elle était toute seule. Puis, j'ai vu Nicole, seule également, s'installer en face d'elle. Elle n'était plus seule. Je ne les avais jamais vues ensemble. Elisabeth ne venait que rarement écouter Nicole. Je me suis approchée pour servir leur table et je les ai entendus discuter. Nicole demandait à Elisabeth si elle venait souvent dans cet hôtel. Elisabeth, un peu sourde, répondait « Oui, oui, je veux bien un peu d'eau. » Puis ajoutait, s'adressant à Nicole « Cela fait longtemps que tu n'étais pas venue. » Nicole m'avait regardée, un sourire au coin des lèvres, sous-entendant que sa voisine de table n'avait peut-être pas toute sa tête. À ma grande surprise, elle lui avait répondu « Oui, tu as raison, Elisabeth. Cela me fait plaisir de te voir. Comment vas-tu ?» Ce n'était pas le jour pour reprendre Nicole une fois de plus en lui disant « Vous savez bien, Nicole, que ce n'est pas un hôtel ici. » J'ai continué mon service et je les ai laissés. Du coin de l'œil, je les voyais discuter malgré le brouhaha et l'agitation de la fête. Je n'ai jamais su si Elisabeth avait pris Nicole pour sa sœur, sa fille ou simplement une voisine. Mais peu importe, cette dernière avait joué le jeu. C'était tellement difficile ici pour les personnes désorientées. Après la fête, Nicole avait raccompagné Elisabeth dans sa chambre, entrant ainsi un tout petit peu dans son intimité. Juste le temps d'apercevoir une photo de famille avec Elisabeth au centre. Puis, elle avait pris l'ascenseur, retournant dans son logement du deuxième étage de la résidence. À partir de ce jour-là, Nicole avait passé beaucoup de temps avec Elisabeth. Elle prenait le café ensemble, elle marchait dans le parc de la résidence malgré le froid de décembre, puis de janvier. C'était devenu un rituel et le personnel évoquait souvent l'amitié de ces deux femmes, si différentes. Elisabeth en semblait apaisée, n'avait pas fait de crise depuis plusieurs jours. Par contre, il s'inquiétait pour Nicole. Un matin, alors que Nicole s'installait à la table d'Elisabeth, j'ai entendu des éclats de voix. Elisabeth était agitée et criait « Ils sont tous morts! Ils sont tous morts !» Tout en essayant de la calmer, Nicole l'interrogeait mais de qui parles-tu? De mon mari, de mon fils, de ses enfants, tous, je te dis, ils sont tous morts !» Puis, Elisabeth s'était levée. Elle s'était éloignée à petits pas, les bras balayés par des mouvements spasmodiques. Nicole, surprise par la crise de son amie, était restée silencieuse jusqu'à l'heure du repas. Inquiète de ne pas la voir à la table du déjeuner, elle m'avait interrogée alors que je lui apportais son entrée. « Connaissez-vous la famille d'Elisabeth? C'est vrai qu'ils sont tous morts? Il faudrait peut-être demander à un médecin de venir à l'hôtel. Je l'ai sentie bien agitée. Je ne voudrais pas qu'elle fasse une bêtise. C'est mon amie. » « Madame Elisabeth ?» Son mari, je ne sais pas. C'est son fils qui l'a emmené ici l'année dernière. Il partait faire le tour du monde avec sa famille. Il ne pouvait pas la garder. Au début, elle a reçu une petite carte de temps en temps. Elle l'a montrée au personnel. Le Mexique, le Chili, la Colombie, je les ai vus dans sa chambre. Mais je crois qu'elle ne reçoit plus rien depuis cet été. En tout cas, mes collègues m'ont dit qu'elle n'avait pas vu de carte postale depuis le mois de juillet. Nicole m'a regardée avant de dire « Quelle misère ! Je comprends qu'elles disent qu'ils sont tous morts. D'ailleurs, ils sont peut-être vraiment morts, vous ne croyez pas ? Qui sait ? Leur van s'est sans doute écrasé au fond d'un ravin de ces contrées lointaines, ou bien le navire dans lequel ils avaient embarqué a pu sombrer, emportant dans ses entrailles la famille au complet. » Puis, je l'ai entendue marmonner, presque comme pour elle-même. C'est rassurant de savoir qu'ils sont morts. Cela veut dire qu'ils ne l'ont pas oublié, elle. Le soir, Nicole a mangé seule. Elisabeth n'était pas descendue. Le lendemain, Elisabeth n'était toujours pas là, ni le surlendemain, ni le jour d'après. N'y tenant plus, Nicole avait décidé d'aller la chercher dans sa chambre, au moment où j'étais en train de la préparer pour un nouvel arrivant. Elle a toqué, j'ai répondu d'entrer. Elle a ouvert, a cherché des yeux la photo de famille, m'a reconnue. « Pardon, j'ai dû me tromper de chambre. Je cherchais Elisabeth. »« Ah, on ne vous a pas dit ?» Nicole a reculé, laissant la porte se refermer sur elle. Je l'ai entendue remonter le couloir. Nicole part vers sa chambre. Elisabeth est partie. Son amie l'a abandonnée. Cette fois, ils sont vraiment tous morts, songe-t-elle. Elle dépose son sac à main sur son lit, prend un livre et se dirige vers la salle de lecture. Je la croise, elle s'arrête et me demande « Cela vous plaît de travailler dans cette EHPAD ?» Puis repart. Elle s'installe dans la salle et attend les autres pensionnaires qui la rejoignent. Ici, c'est chez elle désormais.
Pour finir, issu d'un autre stage d'été dédié à la mémoire du corps, cette lettre de Blanche adressée à son propre corps, lourde de silence, de secrets inavoués.
Mon corps, enfin je te regarde, je viens à toi et m'adresse à toi. Toi qui me portes et me supportes, qui dans les jardins d'infinies délices m'emportes. Je découvre à l'aube de mes 50 ans, tout ce que tu es, ce que tu gardes secret, ce que tu tais, ces tabous que je ne pouvais pas dire. Ces jeux prétendument innocents, ces jeux d'enfants, ces attouchements. Dans la famille, tous ces témoins muets, dans cet abîme, tu tombes, sombre et te noies. Aujourd'hui, je te découvre et apprends à te respecter. J'apprends surtout à aimer les délices que tu renfermes. Je te découvre véritable machine à plaisir, objet de désir. Tes seins lourds, tes hanches développées, tes fesses enrobées, on parle de toi quand on dit rondeur, j'ai envie de dire de toi que tu n'es que douceur, moelleuse et délicieuse, courbe harmonieuse. Mon corps, je te demande pardon, j'ai tellement de mal à te voir en photo, moi qui m'émerveille de toutes choses, qui aime saisir la beauté, beauté de la nature, pourquoi ne la vois-je pas en toi, belle créature ? De toi, de tes mystères mécaniques bien pensés, je ne saisis pas encore tous les rouages de tes subtils engrenages. Tu m'emportes au pays de mes rêves, où je t'imagine si léger, une trêve, enfin en confiance dans la vie, de l'amour une assourdissante résonance. Oubliez les cicatrices, même celles salvatrices, oubliez les douleurs et la lourdeur, place à la liberté et au bonheur. Merveille de ma vie, je te demande pardon, je t'ai tant martyrisé, si peu aimé, pas vraiment accepté, voulu tant te dissimuler, du regard des autres te cacher, aucune tentation tu ne devais provoquer. Toi qui portes mon cœur aussi sensible que toi, son hôte, à la tendresse et la délicatesse. Mon corps, je voudrais t'écouter, enfin t'entendre me parler, murmurer tes mots, avec tes mots, autres que les bourrelets, autres que cette cellulite qui jamais ne me quitte, ces vergetures de ma vie si belle rayure, de ces régimes la signature. Que me dirais-tu ? Que me demanderais-tu ? Me pardonnerais-tu ? De n'avoir pas vu que ton amour s'exprime en silence, assourdissant et lourd, où retentissent ces souffrances intenses, alors que tes sens n'auraient dû être que réjouissance.
I am naked all the time. I am burning inside.
Avant de terminer cette livraison mensuelle des Buissonnières, je veux vous dire quelques mots de ce qui nous met en effervescence ces jours-ci. Depuis 1986, journaliste et bénévole de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud sillonnent le territoire pour faire écho aux événements qui s'y déroulent. Ces musiciens, ces poètes, ces observateurs de la vie politique, ces historiens, ces sociologues, ces collectionneurs d'émotions recueillent les battements du cœur de l'Hérault, défendent la diversité des cultures, relaient les initiatives citoyennes et archivent les précieux moments de mémoire des presque 30 000 auditeurs et auditrices qui, de la mer au pied du Larzac, en ont entre les oreilles. Mais en presque 40 ans, le paysage médiatique a changé. Vous, auditrices et auditeurs, avez changé. Vous voulez écouter, mais vous voulez aussi créer. Le monde a changé. Il est plus complexe et plus divers. La technologie a changé. Voilà pourquoi RPH doit faire sa mue. Non pas sa métamorphose, nous restons fidèles à nos choix et à nos valeurs. Mais la chrysalide RPH 2.0 devient aujourd'hui Papillon. Le studio de Saint-André-de-Sangonis déménage au cœur du village. La radio refond son environnement numérique. Elle ambitionne par ses actions de revitaliser les petites villes et de former les jeunes générations aux médias et à l'information. Notre premier objectif est de collecter 15 000 euros. Parce que une mue, ça fait des frais. La technologie surtout, ça coûte un bras et les oreilles. Les dépenses incompressibles sont donc estimées à 15 000 euros. Et c'est l'objectif que nous voulons atteindre grâce à la plateforme de financement participatif Ulule. Cet objectif, je ne vous cache pas que nous comptons le dépasser et collecter en réalité 30 000 euros, parce que c'est bien 30 000 euros qu'il nous faut
pour accomplir correctement notre mue. Alors, si vous allez sur la plateforme Ulule, vous allez vous apercevoir que, en contrepartie de vos dons, vous pouvez choisir un cadeau qui vous plaît. Des disques, des bouteilles, des enregistreurs collector, des participations aux émissions, des créations de jingles. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. N'hésitez donc pas à participer, même pour une somme modeste, parce que c'est une belle aventure qui vous concerne. C'est la création d'une radio proche de vous, à votre écoute et actrice culturelle de votre vie. Rejoignez notre page Ulule, https://fr.ulule.com/rphfm et laissez-vous guider.
Une époque où règne la confusion.
C'était Les Buissonnières, l'émission de la Maison de l'écriture de Bédarieux, que vous retrouvez les deuxièmes samedis et deuxièmes dimanches du mois à 10h sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud.
I am drifting for the years.